Chapitre 17, l'orchidée noire. Seul. Je suis toujours seul, quoi qu'il arrive. Marilyn Monroe. San Francisco, lundi matin. Le jour se levait sur Telegraph Hill. Les premiers rayons de soleil miroitèrent sur les chromes du réfrigérateur, faisant brutalement passer la cuisine de la pénombre à la lumière. Ébloui par le reflet, Jonathan porta la main à son visage. Le matin, déjà. Épuisé par la nuit blanche passée devant l'écran de son ordinateur, il se massa les paupières. Ses yeux le brûlaient, ses oreilles bourdonnaient, son cerveau était saturé d'horreur. Il se leva péniblement, alluma la machine à café, mais, comme un boxeur sonné après une série de coups, resta une bonne minute sans réaction, le regard dans le vide, sous le choc de cette plongée dans les ténèbres. Il frissonna. Le fantôme d'Alice, escorté par l'ombre de Madeleine, planait encore dans la pièce. Dans son esprit, tout se brouilla. La démence meurtrière du bourreau de Liverpool, la misère de Chitam Bridge, les ravages du crack, l'ambiguïté de Danny Doyle, le sang, les larmes, la mort. Malgré ce dégoût, il n'avait pourtant qu'une envie, se remettre devant l'ordinateur pour continuer à exploiter les quelques documents du dossier qu'il n'avait pas encore ouvert. Mais Charlie n'allait pas tarder à se lever et, avant de préparer le petit déjeuner de son fils, il avait besoin de prendre une douche pour se laver de cette folie. Il resta un bon moment sous le jet brûlant, se savonnant à s'écorcher la peau pour se débarrasser des images de cauchemars qui s'accrochaient à son cerveau. Des questions lancinantes le tenaillaient et revenaient à la charge. Quelles atrocités Bishop avait-il fait subir à cette pauvre gamine avant de la tuer? Avait-il apporté d'autres révélations sur Alice? Madeleine avait-elle de nouveau croisé la route de Danny? Et surtout, comment la flic acharnée de Manchester s'était-elle muée en gentille fleuriste parisienne? Paris, 16e arrondissement. 10h du matin. Madeleine gara sa Triomphe sur un emplacement réservé aux deux roues au début de l'avenue Victor Hugo. Elle enleva son casque, ébouriffa ses cheveux et poussa la porte de l'Aiglon, un petit bistrot traditionnel à allure populaire qui dénotait dans ce quartier plutôt chicos. Elle s'assit à la première table, près de la fenêtre. D'ici, elle avait un point de vue privilégié sur le Café Fanfan, le restaurant de Georges Latulipe, dont l'enseigne prestigieuse trônait de l'autre côté de la rue. Elle commanda un thé, un croissant, tira son ordinateur portable de son sac à dos et... Qu'est-ce que je fous ici? Posée par l'autre moitié de son cerveau, la question la désarçonna. Pourquoi sortait-elle tout à coup des rails confortables de sa vie? Sa place était au magasin, avec Takumi et ses clients, pas en planque devant le resto d'un type qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Tu n'es plus dans la police, ma vieille. Tu n'es plus dans la police, se répéta-t-elle pour s'en convaincre vraiment. Mais se débarrasse-t-on jamais d'un métier comme celui-là? Pour quelques minutes encore, elle choisit de mettre entre parenthèses le côté raisonnable de sa personnalité. Elle prit dans sa poche l'article du tabloïd évoquant la liaison de Georges et Francesca. « Fais marcher tes méninges », s'ordonna-t-elle en le dépliant sur la table. À nouveau, elle détailla les photos, preuve irréfutable de l'adultère de Francesca. Quelque chose n'allait pas dans ces clichés. Ils avaient un côté trop artistique. En tant qu'ancien mannequin, Francesca avait un sixième sens pour prendre la pose et jouer avec la lumière. Alors que cette série de photos était censée être l'œuvre d'un paparazzi, Madeleine avait au contraire la conviction que, loin d'être volée, elle participait d'une mise en scène soigneusement étudiée. Mais par qui et dans quel but? Elle mordit dans son croissant tout en connectant son ordinateur à Internet. Sur le site du restaurant, elle trouva facilement le numéro de téléphone du Café Fanfan. Elle appela et demanda à parler à Georges, mais on lui répondit que Monsieur Latulipe ne serait pas là avant 11h. Elle profita du temps qu'elle avait devant elle pour pousser un peu ses recherches. Le site était à l'image du restaurant, moderne et luxueux. En regardant les crédits, on s'apercevait que l'établissement appartenait en fait au complexe hôtelier de luxe Wynn Entertainment. Le groupe qui a racheté toutes les activités de l'empereur. Sur les menus, dont les prix étaient stratosphériques, elle reconnut certaines des recettes qui avaient contribué à la notoriété de Jonathan. George lui avait piqué non seulement sa femme, mais aussi ses plus célèbres recettes. Injuste. Madeleine lança une nouvelle requête sur Georges Latulipe et atterrit sur un blog de plongée. Apparemment, Latulipe était passionné de photos sous-marines. Parfaitement tenu à jour, son site était une vitrine de ses différents voyages et présentait des centaines de sublimes photos de poissons multicolores, de tortues géantes et de coraux aux couleurs éclatantes. Latulipe explorait le monde depuis des années. Il avait plongé à Belize, à Hawaï, à Zanzibar, aux Maldives, au Brésil, au Mexique. Tout était classé, archivé, commenté. En parcourant les pages web, Madeleine s'arrêta sur le cliché d'un magnifique requin léopard. D'après la légende, le Sélassien avait été photographié aux Maldives le 26 décembre 2009. La date fit tiquer l'ancienne flic. Selon le tabloïd, les photos avec Francesca dataient du 28 décembre 2009. Elles avaient été prises sur une plage à Nassau, aux Bahamas. Sauf que les Maldives et les Bahamas se trouvaient au moins à 15 000 km de distance, en deux points totalement opposés du globe terrestre. Relier les deux endroits par avion en moins de deux jours était sûrement faisable, mais difficile compte tenu des différents transits. Convaincue de tenir quelque chose, elle chercha à approfondir son intuition. En cliquant de page en page, elle remarqua qu'aucun des séjours de la Tulipe ne durait moins d'une semaine. Logique, lorsqu'on se déplace au bout du monde pour plonger. Or, son voyage aux Maldives n'avait duré que deux jours. Tout laissait donc à penser que George avait brutalement interrompu ses vacances pour rejoindre Francesca. Madeleine ressentit une morsure au creux du ventre. Une brûlure flippante et délicieuse. Un frisson intense qui marquait chez elle la découverte de la première piste d'une enquête. « Tu n'es plus flic », lui répéta sa voix intérieure. Mais elle choisit de ne pas l'écouter et, satisfaite de sa découverte, sortit quelques minutes sur le trottoir pour griller une cigarette. San Francisco. « Jour pas !»
Bonjour mon grand, dit Jonathan en soulevant Charlie dans ses bras pour l'embrasser avant de le faire atterrir sur l'un des tabourets de la cuisine.
L'enfant se frotta les yeux et plongea la tête dans son bol de chocolat chaud. Jonathan lui beurra une tartine qu'il nappa d'un peu de miel d'acacia. Charlie le remercia et demanda s'il pouvait regarder les dessins animés sur le petit téléviseur. Ce matin, Jonathan avait une bonne raison pour lui épargner son sermon anti-cathodique.
Bien sûr, chérie, répondit-il en allumant lui-même l'appareil avec la télécommande.
Charlie se rapprocha du poste. Jonathan profita que son fils était absorbé par Bob l'éponge pour s'installer devant l'écran de son ordinateur et reprendre l'exploration du dossier Dixon. Parmi les documents qui lui restaient à parcourir se trouvait un fichier vidéo compressé qu'il lança après avoir branché ses écouteurs. L'image n'était pas d'une excellente qualité. Sans doute le film avait-il été tourné avec un téléphone ou un appareil numérique du milieu des années 2000. Le son néanmoins était audible. Au premier plan, on distinguait Madeleine les yeux clos. Couchée sur un lit d'hôpital, elle semblait encore dans le coma, ou du moins profondément endormie. Puis, l'homme qui tenait la caméra la posait sur la table de chevet et se filmait lui-même. C'était un type brun, viril, au visage carré, au regard sombre et fatigué.
« Cette fois, tu vas t'en sortir, Maddy, »
commença-t-il d'une voix blanche. Jonathan comprit tout de suite qu'il s'agissait de Danny Doyle. Paris. La Porsche Panamera s'arrêta au niveau du restaurant à 11h30 passé. Georges Latulipe sortit de son véhicule et en confia les clés au voiturier. Assise derrière la vitre du café, Madeleine plissa les yeux pour le détailler. Il avait un peu vieilli par rapport aux photos, mais présentait toujours bien. Allure soignée, silhouette athlétique,
Les tempes légèrement argentées, certes, mais pas suffisamment pour qu'on le catalogue « vieux beau ». Elle avait décidé de prendre son temps et de l'observer. Vu l'heure à laquelle il arrivait au restaurant, Georges se consacrait sans doute davantage aux relations publiques qu'à ses fourneaux. Elle était donc persuadée qu'il ne s'attarderait pas outre mesure une fois le service terminé. Plus l'heure du déjeuner approchait, plus l'Aiglon, le petit café dans lequel elle avait trouvé refuge, se remplissait. La patronne lui demanda si elle souhaitait manger quelque chose, ce qu'elle accepta pour ne pas perdre son poste d'observation. Elle commanda le plat du jour. Le menu n'était pas le même que de l'autre côté, mais elle avait tellement faim qu'elle avala en quelques bouchées sa saucisse de Toulouse au thym et aux oignons caramélisés. Voilà, elle avait repris contact avec le terrain. Les planques, les filatures, les conjectures, les repas sur le pouce. Elle s'était pourtant persuadée d'avoir tiré un trait sur tout ça, mais les anciens réflexes revenaient au galop. Que cherchait-elle à se prouver? Qu'elle n'avait pas perdu son flair? Qu'elle était encore capable de dénouer les fils d'un mystère? Ça l'excitait autant que ça la terrifiait. Depuis plus de 2 ans, elle s'était employée à effacer son passé. Et aujourd'hui, elle craignait qu'il ne ressurgisse brutalement, comme un diable de sa boîte. Elle était comme une junkie ou une alcoolique. Jamais totalement guérie, susceptible de replonger à la moindre tentation. À l'évocation du passé, les larmes lui montèrent aux yeux. Tenir le chagrin à distance. Surtout ne pas repenser à Alice. Sa dernière enquête l'avait projetée au fond du gouffre. Elle s'était réveillée à l'hôpital après 2 jours de coma dû à son suicide manqué. Lorsqu'elle avait ouvert les yeux, elle avait son téléphone dans la main. Encore un peu dans les vapes, elle avait regardé l'écran sans comprendre. Sur la table de nuit, près d'un simple bouquet de violettes, reposait une enveloppe d'où elle avait tiré une carte de visite. « On a toujours le choix. Prends soin de toi, Daniel. » Elle était revenue à son téléphone et avait constaté que quelqu'un s'était servi de son appareil pour se filmer. Lorsqu'elle avait lancé l'enregistrement, le visage de Dany était apparu sur l'écran. Elle ne l'avait jamais vu si fatigué ni si humain.
« Cette fois, tu vas t'en sortir, m'a dit. »
commença-t'il d'une voix blanche.
Cette fois, tu vas t'en sortir, m'a dit. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Je connais les flics. Ils ne sont pas très différents des types comme moi. Je sais qu'au bout du compte, la plupart finissent par suivre le même chemin désenchanté. Celui qui s'enfonce dans les ténèbres, la violence, la souffrance, les obsessions, la mort. Je sais que tu dors avec ton flingue. Je sais que tu es habité par la peur. Je sais que tes nuits sont agitées, peuplées de fantômes, de cadavres et de démons. Je connais ta détermination, mais aussi cette part de noirceur en toi. Tu l'avais déjà lorsque tu étais adolescente et ton job n'a fait que l'amplifier. Mais il t'a aussi transformé en morte vivante. Tu as perdu ta pureté, ta fraîcheur et ta lumière. Désormais, la seule lumière qui s'allume en toi est celle de la traque. Au fond, tu n'es pas très différente de la mère de cette gamine qui s'accroche à sa pipe de crack. Tu es devenu un charognard, une camée qui a besoin de son quota de chasse et d'arrestation pour obtenir sa dose d'adrénaline. C'est ton shoot, ton fixe, ton flash. C'est à ça que tu te piques et tu vas en crever.
Dany s'interrompit, donnant l'impression de chercher ses mots en allumant une cigarette. On était dans un hôpital où fumer était bien entendu strictement interdit, mais ce genre de loi, si elle valait pour le commun des mortels, ne concernait pas quelqu'un comme Doyle.
« Tu as soif de vérité, »
continua-t-il.
« Mais cette quête de l'absolu te ronge et ne s'arrêtera jamais. Après Alice, il y aura d'autres morts, d'autres enquêtes, d'autres criminels à coffrer. Et chaque fois, tu ressentiras davantage de mélancolie, de solitude et d'errance. Tu veux traquer le mal, mais le mal n'en a rien à foutre de toi. Il va te détruire et te laissera seul, c'est tout. Le mal gagne toujours à la fin, crois-moi. Tu passes à côté de ta vie, m'a dit. Il faut que tu sortes de cette spirale avant de basculer dans un précipice d'où tu ne reviendras pas. Je ne veux pas que tu aies cette existence. Je ne veux pas que tu te laisses broyer. Casse-toi de ce quartier, m'a dit. Casse-toi de cette putain de ville. Vis tes rêves. Pars pour Paris. Ouvre cette boutique de fleurs dont tu parles depuis longtemps. Ne la laisse pas à l'état de chimère. Tu lui avais même trouvé un nom, je me souviens. C'était quoi déjà? Le titre d'une vieille chanson française, je crois. Le jardin extraordinaire.
La phrase resta en suspens. Dany défit un bouton de sa chemise et tira quelques bouffées nerveuses de sa cigarette en détournant son regard de l'objectif. Il se frotta les yeux, soupira, chercha quelque chose à ajouter, approcha sa main de l'appareil pour l'éteindre, puis se ravisa. Il avait l'allure d'un homme aux abois. Une larme de fatigue le prit par surprise et roula le long de sa joue. Il l'essuya d'un geste maladroit, presque enfantin. Dany n'avait pas dû beaucoup pleurer dans sa vie. Au final, il murmura simplement
« Je t'aime ».
Puis l'image sauta avant de se brouiller. Et Madeleine comprit d'instinct que Dany était mort. Depuis son lit d'hôpital, elle regarda le bouquet de violettes, puis de nouveau la carte de visite. En la retournant, elle découvrit une succession de chiffres. Un numéro de téléphone qu'elle composa dans la foulée. C'était celui d'une banque, en Suisse. Elle donna son nom et on lui annonça qu'un compte avait été ouvert à son nom et qu'il était crédité d'une somme de 300 000 euros.